Anne-Sophie Poiré nous apprend ce matin que le nombre de prescriptions de lunettes pour contrer la fatigue oculaire atteint des sommets chez les enfants et les adolescents depuis le début de la pandémie. On va aller rejoindre Langis Michaud. Il est directeur et professeur titulaire de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Bonjour, M. Michaud.
Bonjour, M. Drainville.
Donc, vous formez des optométristes, c'est bien ça?
Oui, la seule école francophone au monde qui forme des docteurs en optométrie.
Ah oui, il n'y en a même pas en France?
Non, la profession n'est... Il y a des écoles de formation, mais la profession n'est pas reconnue en France.
Wow, OK. Et là, les optométristes sont très, très, très occupés. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, ce qui se passe, c'est qu'on met notre système visuel sous un stress important. On parle de santé mentale beaucoup, mais notre système visuel, il est pas mal stressé lui aussi. Et dans le fond, c'est pas l'écran lui-même, c'est la façon qu'on l'utilise, c'est les heures passées devant l'écran qui se multiplient. Et si on a le moindre défaut dans notre système visuel, ben là, il y a des choses qui étaient là avant, mais qui deviennent maintenant visibles et qui sont maintenant symptomatiques. Les gens développent donc de la fatigue oculaire, alors qu'il ne la développait pas avant. Donc, c'est pas l'écran lui-même, c'est le fait qu'on l'utilise très longtemps puis que le système n'est pas nécessairement bâti pour ça, ou il y a un défaut dans le système qui n'avait pas été identifié et qu'on peut corriger pour améliorer, évidemment, la performance de la personne.
Défaut dans le système oculaire, vous voulez dire, là?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a trois éléments qu'on va regarder quand quelqu'un... d'une part, oui, c'est vrai que les gens consultent beaucoup plus, il y a beaucoup plus de téléphones, beaucoup plus de demandes, autant chez les enfants, les adolescents que les adultes qui travaillent de la maison. Mais la première chose à vérifier, c'est est-ce qu'on a un besoin de corriger quelque chose dans ce système visuel-là? Est-ce que les yeux voient bien ou pas bien? Donc, c'est la première étape. Parce que des fois, la prescription date de quelques années, pas tout à fait à point, donc on la remet au goût du jour. Deuxièmement, si elle est corrigée, est-ce qu'elle est bien corrigée? Par exemple, on sait que 50% des lunettes achetées en ligne ne seront pas bien faites, ne sont pas centrées pour votre œil, il y a des défauts des fois avec la prescription. Bref, ça peut causer de la fatigue, ça peut causer des maux de tête, ça peut causer de l'inconfort quand on regarde longtemps un écran qu'on n'avait pas avant quand on faisait nos choses habituelles. Donc, on va regarder si la correction est juste. Ce qui est surtout important, en particulier chez les enfants, parce que c'est là que ça se manifeste surtout.
C'est ça ma prochaine question, là. Qu'est-ce qu'il faut surveiller chez les enfants, là?
Bon, les enfants, de façon encore incompréhensible, il y a un certain nombre d'enfants qui n'ont jamais consulté un optométriste de leur vie. Et le système visuel d'un enfant est fragile. Quand on lit de proche, quand on regarde de proche, évidemment, un livre, c'est à 40 cm, la longueur de notre bras à peu près. Mais ils regardent leur téléphone à 18 cm. Et il faut savoir que quand on lit, nos yeux convergent. Donc, ils s'en vont vers le nez. Et plus on est proche, bien, plus nos yeux doivent faire un grand effort pour se rapprocher, là, pour être les deux à la même place où on regarde. Et très souvent, les yeux ne bougent pas à la même vitesse. 40% des enfants ont des problèmes de ce côté-là, naturellement, là, tu sais, puis sans que ce soit l'écran qui cause ça. Donc, les yeux ne bougent pas nécessairement à la même vitesse ou ne focusent pas exactement au même endroit, de sorte que quand on est trop proche et quand on fait ça trop longtemps, bien là, le système ne peut plus suivre. Alors, ça s'entraîne. Il y a des exercices qu'on peut faire pour ramener ça. Ce n'est pas des lunettes, là. On peut faire des exercices, c'est bien diagnostiqué. On peut aussi aménager nos plans de travail, éloigner la distance de travail, avoir un bon éclairage, faire des pauses fréquentes, c'est des choses importantes.
Qui peut nous aider avec ça, Langis Michaud? Est-ce que il faut prendre un rendez-vous avec un optométriste? Il va être capable de détecter ça et il pourra nous donner, par exemple, des exercices à faire?
Tout à fait. Il va faire donc l'examen au complet. Il va faire l'examen de votre vision. Il va faire l'examen du travail de vos yeux, de la coordination de vos yeux. Donc, est-ce que les yeux travaillent bien ou pas ensemble? Puis, si jamais il y a besoin d'exercice, il va vous les prescrire. Puis, il va les suivre. Puis, des fois, ça prend 2, 3, 4 semaines. On entraîne le système. Écoutez, je vous donne l'exemple. C'est comme si demain matin, je faisais mon jogging puis j'étais habitué de faire 2 kilomètres. Et là, tout à coup, à cause de la pandémie, on me demande de courir 22 km à tous les jours. Je ne suis pas entraîné pour faire 22 km. Je vais m'essouffler, puis je vais avoir mal au mollet, puis je vais avoir des crampes. Il faut que je m'entraîne, il faut que je bâtisse mon système pour être capable de faire mon 22 km. Ça, l'optométriste va vous dire, va être votre entraîneur personnel, si vous voulez, pour savoir comment faire. Et il va vous donner aussi des conseils d'aménagement de votre poste de travail. Pas jamais être dans noirceur. éviter des réflexions parasites au niveau de l'écran, que la lumière de côté de la fenêtre ne vienne pas faire des éclairages parasites, qu'on soit pas trop proche, effectivement, qu'on fasse des pauses fréquentes à toutes les demi-heures, au moins 1 à 2 minutes de pause. Et chez les enfants, aller jouer dehors. Le plus bel écran du monde, là, il est dehors. Donc, aller dehors et 1 heure par jour minimum pour protéger nos yeux.
Est-ce qu'il peut y avoir des séquelles à long terme si on le fait pas?
Bien, c'est sûr que, encore une fois, chaque fois qu'on met un stress sur un système au niveau de notre corps, il va compenser d'une façon ou d'une autre. Donc, si on ne corrige pas ces choses-là parce qu'on peut les corriger, soit par des moyens optiques, soit par des exercices, comme je le disais, ou par des bonnes habitudes, ou par un aménagement de notre plan de travail, bien, le système va s'adapter en disant, bien, tu me demandes de lire à 30 cm pendant 8 heures de temps, bien, je vais lire à 30 cm. Et je vais donc sacrifier ma vision de loin pour me concentrer sur ma vision de proche et on va développer la myopie à ce moment-là. Donc, on voit...
Une myopie prématurée?
Beaucoup plus tôt. Moi, quand j'ai gradué il y a 30 et quelques années, les myopes, je les voyais arriver à 13, 14 ans quand ils venaient de prendre un pied dans un an de croissance, là. Puis c'était un degré de myopie, puis ça se terminait à 18 ans, 2, 3 degrés. Je vois des enfants toutes les semaines de 6, 7, 8 ans m'arriver avec déjà 2 ou 3 degrés de myopie. Ce qui me scandalise le plus, c'est quand je me promène dans des lieux publics, quand on pouvait aller dans des lieux publics, là, qu'il n'y avait pas de fermeture, mais d'avoir des enfants dans des carrosses, dans des poussettes avec l'iPad. Ça, c'est mortel, là. Oubliez ça, là. Avant 2 ans, 0 exposition, ni au téléphone, ni au iPad, ni à rien. Le système visuel est juste pas fait pour ça. Aucun écran avant 2 ans.
Rien. Wow, non, mais c'est important, ça.
Oui. Ça, le plus qu'on va tolérer, c'est de ce temps-ci, entre autres, là, on fait un chat avec grand-papa, grand-maman à distance, 1-2 minutes, supervision de papa-maman, puis that's it, c'est fini, là. C'est 1 heure de jeu dans le carrosse, juste pour tenir le bébé tranquille, là. Ça, c'est la meilleure recette pour avoir un système visuel tout croche quand quand l'enfant va rentrer à l'école. Premier examen visuel à 3 ans, extrêmement important. À 5 ans, si tout va bien. Et à chaque année après, parce que le système change d'année en année, et déjà au primaire, on voit qu'il y a 30 à 40 % des enfants qui ont des problèmes qui sont réglables, soit par exercice, ça ne veut pas dire des lunettes. Des lunettes, c'est peut-être 8-10 % maximum. On va corriger beaucoup de problèmes de système musculaire, de convergence. On va aider le système à apprendre. On apprend 80 % par nos yeux. C'est notre outil le plus important pour la réussite scolaire. Et c'est pour ça que les programmes de dépistage au niveau des écoles, au niveau des 5 ans, l'école de la vue, est si important. Ça identifie les problèmes et c'est ce qu'ils ont trouvé. 40 % des enfants ont été référés en bureau et on confirme que souvent, il y a des problèmes qu'on peut régler facilement, mais au moins, ça donne à l'enfant les outils pour bâtir son avenir.
Là, les optométristes, le président de l'Ordre, Éric Poulain, il dit, là, augmentation très importante des demandes de consultation. Le président de l'Association des optométristes, il dit, j'ai jamais vu ça. Là. J'ai jamais prescrit autant que dans les derniers mois. Est-ce qu'ils sont capables de fournir, en d'autres mots, un parent qui nous écoute là, puis qui fait comme « oh boy, là, moi, il faut que j'aille consulter », il va devoir attendre combien de semaines avant de pouvoir voir l'optométriste?
Dépendant des régions, dépendant des bureaux, habituellement, les optométristes en première ligne sont les ressources les plus disponibles, les plus accessibles partout sur le territoire des îles de la Madeleine jusqu'en Abitibi, puis de Venise en Québec jusqu'au Grand Nord. Je vous dirais, si vous voulez un rendez-vous le samedi à 10 heures, bien probablement 3 semaines d'attente, 1 mois. Si vous voulez en semaine, ça va être beaucoup plus vite. En urgence, demain matin, même aujourd'hui, je peux vous voir. Les cliniques sont ouvertes, sont disponibles. Les optos sont capables de répondre à vos besoins. C'est couvert par l'assurance maladie jusqu'à 18 ans. Si jamais il y a lunettes, programme du gouvernement qui rembourse 250 $ aux parents jusqu'à l'âge du temps, 1 fois ou 2 ans. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas y aller et surtout de donner à vos enfants les moyens de faire cette classe à la maison, cet enseignement à distance, les adolescents aussi. Et Dieu sait, les adolescents, l'éclairage, très important, souvent, ils vont consulter leur téléphone dans noirceur, ça c'est mortel aussi. On arrête 1 heure avant le dodo aussi, parce que sinon, ça perturbe le cycle du sommeil chez les adolescents, puis qu'on sait qu'il est déjà retardé par rapport à celui d'un adulte. Puis nos adultes aussi, qui travaillent de la maison, bien, souvent, l'ordinateur de la maison, il n'était pas fait pour travailler 8 heures. Là. L'ergonomie, là, donc l'aménagement du poste de travail, il doit être revu, corrigé. Et là aussi, si on a des symptômes visuels, puis on les rappelle, Des yeux qui tirent, qui larmoient, qui sont rouges, qui fatiguent, des maux de tête, des lettres qui dansent, de la vision fluctuante. On oublie de cligner quand on est devant l'ordinateur. On cligne 5 fois moins que normalement. Notre œil devient sec. La première surface qui nous fait voir, c'est les larmes. Donc, si nos yeux sont pas bien humidifiés, on peut pas bien voir. Donc, évidemment, on va mettre de l'humidité un peu dans notre pièce de travail pour s'assurer qu'on n'a pas les yeux secs. Justement, on met des gouttes de temps en temps, mais surtout, surtout des pauses. Une demi-heure, à toutes les demi-heures, 1 à 2 minutes, on regarde autre chose, on regarde par la fenêtre. Et chez les enfants, au moins 1 heure à l'extérieur, dans la lumière naturelle du jour, à aller jouer dans la belle neige, là. C'est ça qui protège.
Oula! C'est tout un programme, mais c'est utile. C'est très utile de vous entendre, Langis Michaud, donc, qui est directeur et professeur titulaire de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Merci beaucoup, M. Michaud. Juste avant de vous laisser aller, j'ai un auditeur qui me dit, quand vous disiez pas d'écran là pendant les 2 premières années de la vie d'un enfant, est-ce que ça inclut les écrans de télé, ça?
Non, la télé, c'est différent parce qu'évidemment, la distance est beaucoup plus loin. Puis un enfant qui regarde la télé, il sera pas fixé sur la télé de façon attentive tout le temps, 100% okay. du temps. Il va regarder un peu la télé, il va jouer un peu à côté, il D'accord. va faire ci, il va faire ça, il va bouger. Un écran, là, c'est addictif, ces affaires-là. Il n'y a pas de signal de stop. Il y a le téléphone, puis il est là, il fixe le téléphone pendant 2 heures de suite, puis okay. si on ne le sortait pas de là, il sera encore là dans 3 ans. Là, t'sais? Donc, c'est ça qui est dommageable. C'est, okay. c'est le fait, c'est la prolongation.
Merci, M. Michaud.
Merci, M. Drainville, et que vos auditeurs consultent leur optométriste de famille, c'est la meilleure façon de passer à travers cette crise-là, tout le monde.
Conseil apprécié, à la prochaine.
Merci, au revoir.
Bon, il parlait de la neige, M. Michaud. Ben justement, après la pause, est-ce que vous vous êtes amusé à faire un bonhomme de neige en fin de semaine? Et si oui, le bonheur que vous avez eu, que vous avez peut-être redécouvert, que vous avez peut-être partagé avec vos enfants ou avec je sais pas qui, peu importe, 790-9850, si ça vous tente de nous en parler, ou écrivez-moi un petit mot, 98985, pendant la pause, là, 98985, ou un petit courriel à Drainville, à commercial, 985fm.ca.